Voilà. Voilà, on y est. Donc, bonsoir. Ce soir, nous
Bonsoir tout le
allons
monde.
faire un nouveau cours sur l'Église et ce cours va concerner le royaume, Église et royaume. Avant de rentrer un peu plus dans ce cours sur le royaume, je voudrais revenir un tout petit peu sur le cours de la semaine dernière et sur vos réactions. Donc, vous n'oubliez pas que pour prendre la parole, vous devez réactiver vos micros et que quand vous n'avez pas la parole, c'est mieux d'éteindre vos micros. Donc, la semaine dernière, on a parlé du mystère de l'Église et nous avons vu que ce mystère, on ne pouvait pas le saisir, mais qu'on pouvait essayer d'en faire le tour entre ce que nous disons dans la foi, que nous proclamons, ce que nous vivons dans nos expériences de vie en Église, ce que l'Église dans ses différentes formes de structure nous propose comme éléments pour nous aider à comprendre l'Église. Donc, je vous propose ce soir
On vous entend plus. On n'entend rien.
Le son est coupé.
On n'entend rien, rien.
Le son est coupé.
Le son n'est plus coupé. Je ne sais pas ce qui s'est pas ce que j'ai tripoté sur mon ordinateur, mais j'ai coupé le son. Ça va?
Oui.
Oui. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est de réagir à la précédente séance. Qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce qui me déplace, me rassure? Et puis surtout, quelles questions j'ai? Parce que moi, je continue à préparer des cours et que j'ai besoin de savoir quelles sont vos questions.
Moi, j'ai une question, Isabelle.
Oui?
Enfin, une question. Ou quelque chose que j'ai découvert et qui me rassure. Si j'ai bien compris, vous avez parlé de liberté d'expression, en tout cas, liberté de questionnement à l'origine de l'Église.
Désolée, mais rien ne t'empêche de faire un petit bisou. Il faut quand même que tu écoutes, mais un bisou, ça prend pas tant que ça quand même.
Fermez les
Alors,
micros.
fermez les micros si vous n'êtes pas sur le cours ou si vous êtes dans une conversation privée. On
Et
revient aux questions sur l'Église.
donc du coup, je voulais savoir si j'avais bien compris. Si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui me rassure. Voilà.
C'est-à-dire que vous avez bien compris sur le fait que il y a beaucoup de questions sur l'Église, c'est
Non,
ça?
enfin, voilà, il me semble que vous avez dit qu'au début de l'Église, les croyants pouvaient exprimer leur questionnement
Absolument.
publiquement, même dans leur communauté.
Oui,
Et
absolument.
je trouve que ces dernières années, enfin, je vous parle des 200 ou peut-être 1000 dernières années,
C'est à peu près 1000, effectivement.
On n'a pas vraiment, comment dirais-je, encouragé ni le questionnement, ni les discussions dans les communautés. Voilà. C'était un peu, je mets le couvercle et surtout, il faut que rien dépasse. Donc voilà, je voulais savoir si j'avais bien compris.
Alors, je crois que vous avez bien compris. Donc, aujourd'hui, on ne va pas aller jusque sur cette question-là. La semaine prochaine, on fera un petit peu un cours d'histoire de l'Église et on verra un petit peu ces évolutions. Effectivement, nous étions, alors que l'Église des commencements foisonnait, Vous avez vu quand même en écoutant Rodrigue Dupont-Roch que tout n'était pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais l'Église foisonnait et inventait. C'est vrai que petit à petit, se sont mis en place des régulations qui ont peut-être un peu étouffé l'Esprit Saint. Et je pense quand même que quand l'Esprit Saint est trop étouffé, il réagit très fortement et qu'actuellement nous vivons un état de difficulté dans l'Église et dans les Églises qui est quelque part l'œuvre de l'Esprit Saint qui met un peu des... qui secoue un peu les choses.
Alors, moi, j'ai autant l'institution, je comprends qu'elle, que l'institution ait, comme toutes les institutions, tout d'un coup, une envie de management pyramidal et de… Mmh. Voilà, moi, ce qui me choque, ce qui m'a choqué pendant des années à l'Église, c'est que ce sont les paroissiens eux-mêmes qui sont plus royalistes que le roi. Et Caroline ne va pas me… ne me contrera certainement pas sur ce point et je serai contente qu'enfin la parole ait le droit d'être libérée et pas seulement par l'institution mais aussi par les paroissiens.
Écoutez, je pense que c'est votre expérience mais qu'on est nombreux à la partager.
Malheureusement, oui, je pense.
Voilà. C'est toujours très, très compliqué pour tout le monde de sortir du confort quand même de façon de faire. Mais ça bouge quand même, j'espère.
Oui, j'espère. Bah, surtout si on veut que notre Église reste attrayante pour les gens. Le fait d'être regardé de travers à chaque fois que quelqu'un tousse, enfin, c'est juste insupportable. Donc, voilà. il est largement temps que l'esprit souffle plus fort. Là, il va falloir qu'il nous fasse comme l'ouragan Yann. Là, il va falloir qu'il souffle très fort.
Il y en a qui souffrent très fort. Alors, je crois que l'esprit, c'est... il faut qu'il arrive à souffler pour faire marcher, donner de l'énergie. Et puis, il faut faire quand même attention qu'ils ne détruisent pas tout. Et que c'est un peu comme quand on est en train de vanner, qu'on garde le bon grain quand même, dans le vent. Alors, j'espère qu'on va avancer sur ces découvertes, sur ces façons de parler, sur le droit à l'expression et la façon dont il faut qu'on s'exprime. Pour que ce soit, enfin, dont il est possible de s'exprimer dans l'Église pour être légitime et surtout fécond. C'est ça l'important. C'est pas seulement d'être légitime aux yeux d'une institution, mais d'être fécond en matière d'évangélisation. On continue sur les questions, les découvertes. Les choses que vous aimeriez voir traitées. En cours d'année. Bon. Alors aujourd'hui, on va retourner à l'Évangile et au royaume de Dieu que Jésus nous a annoncé. Qu'est-ce que j'ai mis sur la photo? Est-ce que vous reconnaissez cette photo?
Marseille.
Marseille.
La bonne mère.
La bonne mère. Le nom officiel, c'est Notre-Dame de la Garde.
Oui.
Dans ce que je vous ai dit la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai voulu mettre en mettant cette photo? Pas seulement me faire plaisir, parce que c'est un lieu que j'aime bien.
Ancré au sol et en même temps dans le ciel.
Exactement. Hein, ancré au sol et dans le ciel. Vous voyez, tout à fait ça, et la photo est, le montre bien. C'est d'ailleurs la photo qu'il y a sur le site d'entrée du diocèse de Marseille. Ce n'est pas la cathédrale, hein, Notre-Dame de la Garde, c'est une basilique. Les bureaux de l'évêché, à tout hasard, ils sont là. C'est comme ça. Mais ancré dans le ciel, est ancré sur le sol et la tête dans le ciel. Vous avez un sol qui est urbain, qui est le sol des humains. Hein. On est en pleine ville. Vous avez dans le ciel, tout en haut de cette basilique, cette statue. C'est une statue de la Vierge à l'enfant. Ça permet, je le dis parce qu'au 19e, c'est une basilique qui date du 19e, hein, c'est tout à fait cette architecture triomphante du 19e, pas forcément toujours très jolie, mais au 19e, souvent, on représentait Marie sans l'enfant. Ce qui était une forme de dévotion mariale un petit peu déplacée, puisque quelque part on idolâtrait Marie comme si c'était elle qui était Dieu, alors que là, Marie nous présente l'enfant. Et ce qui est en jeu, c'est Dieu s'est incarné sous la forme d'un petit enfant. Donc, Marie nous présente cet enfant et Dieu s'est incarné et c'est bien ça la bonne nouvelle. Dieu est venu habiter parmi nous. Comme dit l'Angélus, en reprenant la phrase de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et donc on va commencer par suivre Jésus sur les chemins de Palestine qui annoncent le royaume et voir cette bonne nouvelle du royaume, voir comment ce royaume, les auteurs des Épîtres ne parlent pas du royaume, mais parlent de l'espérance. Et après, on verra qu'est-ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Alors, je reviens à Jésus. Jésus annonce le royaume. Le premier verset, je suis dans les synoptiques. Au début de l'évangile de Marc, nous avons une introduction, puis les scènes du baptême et du désert, des tentations au désert. Et enfin, Jésus commence sa prédication et il parle en disant « Le temps est accompli ». Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, à la bonne nouvelle. Je ne sais plus si je l'ai dit la semaine dernière, je le redis aujourd'hui. Les traductions que j'utilise sont celles de la TOB. Le règne de Dieu s'est approché. Nous sommes au passé composé, c'est-à-dire que c'est déjà là. Jésus annonce le règne de Dieu. Alors, tout de suite, je vois « annonce le royaume, le règne ». Le mot grec étant… Il n'y a qu'un seul mot en grec pour dire « royaume » ou « règne ». Donc, on ne va pas chercher des subtilités qui sont en fait celles du traducteur et pas du texte grec. Mais donc, ce règne de Dieu, il s'est approché, il est déjà là. Et pour pouvoir en profiter, entre guillemets, il faut se convertir et croire. Alors, au début de l'évangile de Matthieu, on est au chapitre 4, parce qu'avant, nous avons eu les scènes de l'enfance, l'annonce faite à Joseph, la généalogie de Jésus, la naissance. Non pas la naissance à Nazareth, mais l'adoration des mages, la fuite en Égypte, le massacre des innocents. Et on a, après les scènes du baptême et les scènes des tentations au désert, avant que Jésus retourne en Galilée et commence sa prédication, son ministère apostolique. Et il commence par dire « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché », la même phrase que dans Marc, ou presque. Dans Luc, le début du ministère, de ce qu'on appelle le ministère public de Jésus, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors là aussi, on a au début les évangiles qu'on appelle les évangiles de l'enfance, en fait, la scène de l'Annonciation, de la Visitation, la crèche, l'adoration des bergers, la présentation au temple, Jésus quand il a 12 ans et qu'il est parmi les docteurs, et puis après, les scènes au désert, d'abord du baptême et au désert, les tentations. Et après, quand Jésus commence sa prédication, il est dit qu'il retourne à Nazareth où il a été élevé et qu'il rentre dans la synagogue. On lui donne un rouleau qu'il lit et il lit le livre d'Isaïe. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Alors, cette prophétie d'Isaïe, dans l'univers des prophètes, c'est ce qu'on attend du roi Messie, que le royaume revenant, que le roi, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est celui qui a reçu l'onction de Dieu. Et le royaume, c'est ce royaume davidique idéalisé, c'est le royaume dans lequel le peuple sera bien. Il y aura la paix à ses frontières et il vivra bien. Et ça, c'est le roi qui va le permettre, le royaume. Et donc, en fait, quand Jésus lit ce rouleau d'Isaïe, si vous vous rappelez la scène, il pose ensuite le rouleau et tous ont les yeux fixés sur lui et il dit « Cette prophétie, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Moyennant quoi, ils se mettent en colère et ils essayent de le tuer, mais ils n'y arrivent pas. Mais il se situe dans le royaume, la venue du royaume dans l'imaginaire messianique juif de l'époque. On attend ce roi, ce Messie, qui restaurera la royauté en Israël, c'est-à-dire la paix. C'est ça la royauté en Israël, ce n'est pas de changer de système politique, c'est une paix qui permette de vivre bien suivant les commandements de Dieu. Donc, le royaume. Ce mot « royaume »,« règne », il est prononcé, enfin, il est dans l'évangile de Matthieu 50 fois, 39 fois chez Luc, 15 fois chez Marc et 5 fois chez Jean. Même chez Jean, ce royaume y est. Chez Jean, il est 2 fois dans l'entretien avec Nicodème, en début, et surtout 3 fois dans l'entretien avec Pilate, où cet entretien nous donne la clé de compréhension du royaume, puisqu'il nous dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Si mon royaume était de ce monde, j'aurais des gardes qui auraient empêché que je me fasse arrêter. Donc, il nous faut aller un petit peu plus loin sur ce qu'est le royaume pour Jésus. Et je vous propose de lire les béatitudes. Alors, Matthieu 5, même si ce n'est pas écrit sur la diapositive, premier discours officiel de Jésus sur la montagne. Il a réuni ses disciples, les foules l'ont suivi, et il prend la parole pour un très long discours qui, en Matthieu, fera 3 chapitres. Et nous avons donc ces 8 béatitudes. C ces 8 béatitudes, quelque part, ben, c'est le programme de Jésus. C'est son royaume inauguré. Ce programme, c'est tout d'abord une affaire de bonheur. Heureux, 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 heureux. Mais ce bonheur, il est quand même bien paradoxal. Les pauvres, les doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif, ceux qui font miséricorde, les cœurs purs, les pacifiques, ceux qui font œuvre de paix, ceux qui sont persécutés. On est quand même dans... on n'est pas dans le bonheur tel qu'on l'imagine habituellement, ceux qui ont une belle maison, ceux qui ont un beau jardin, ceux qui mangent à leur faim, c'est plutôt un bonheur de consistance, un bonheur qui, d'épaisseur de la vie, qui montre une vie qui n'est pas superficielle. Ils font œuvre de paix, qui sont persécutés, mais pas pour rien, pour la justice. Donc, on est finalement dans la profondeur de la foi. Il nous propose de partager sa foi. Deuxième aspect de ces béatitudes, on est au pluriel. Les gens, ce n'est pas « heureux es-tu, toi qui es pauvre », c'est « heureux les pauvres ». Ce n'est pas « heureux es-tu, toi qui es doux », c'est « heureux les doux ». On est donc dans quelque chose qui est collectif, qui est un bonheur qui circule, un bonheur donc qui est associé à cet amour que Paul nous décrit en 1 Corinthiens 13, qui est le plus grand de tous les dons, puisque il est pour un pluriel, on ne dit pas tous, on ne sait pas, mais ce n'est pas réservé à un petit soi égoïste, c'est surtout ça. Troisième, donc, je parle d'amour. Troisième aspect, encore plus net là-dessus, c'est le temps grammatical. Vous voyez que les six béatitudes du milieu sont au futur. Ils auront la terre en partage, ils seront consolés, seront rassasiés, il leur sera fait miséricorde, ils verront Dieu, ils seront appelés fils de Dieu. On est dans le futur, et pourtant, la béatitude du début et celle de la fin sont toutes les deux au présent. Le royaume des cieux est à eux. Donc, il y a quelque chose de ce royaume très particulier qui est qu'il est déjà là, il est au présent, mais son effectivité, son fonctionnement efficace, je dirais, le fait de vraiment l'éprouver est au futur. C'est au futur qu'ils verront Dieu, mais le royaume est déjà là. Et cette articulation du déjà là et du futur, bon, c'est la vertu chrétienne d'espérance, bien évidemment, puisque espérer, c'est savoir que nous aurons quelque chose dans l'avenir, mais c'est également une caractéristique du royaume qui était déjà dans cette annonce à Nazareth, quand il lit le livre d'Isaïe et qu'il dit « cette prophétie, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit », qui était déjà là dans le règne de Dieu s'est approché. Ce royaume, il n'est pas vraiment là, mais il est quand même déjà là. Il y a une articulation du présent et du futur qui est vraiment une caractéristique du royaume. Avant d'aller plus loin, je vous laisse réagir un petit peu.
J'ai quelques questions.
Oui, ce phénomène.
Alors, si j'ai bien compris la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, si j'ai compris, c'est, je peux dire que dès la naissance de Jésus, il a ouvert à inaugurer le royaume de Dieu. Et le royaume des cieux, c'est après la réception de l'Esprit Saint, soit au baptême, bon, c'est moi qui ai ajouté le baptême, soit le baptême, en recevant le baptême, tu as reçu l'Esprit Saint et tu rentres dans le royaume des cieux, c'est ça?
Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment séparer le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce royaume de Dieu, il est déjà là dès que Jésus est là. Après ça, notre conscience du royaume de Dieu, du royaume n'est pas toujours très fine. En revanche, quand on parle des royaumes des cieux, souvent, on parle de notre vie après, ou bien de celui qui ne nous est pas accessible, puisque souvent on articule le terrestre et le céleste, la terre et le ciel, pour parler de cette présence de Dieu, du ciel, mais qui ne nous est pas vraiment accessible. Je reviens à cette image de cette basilique qui touche le ciel, mais ce n'est pas pour autant que nous, on touche le ciel. On ne monte pas dans la statue pour toucher le ciel. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Bon. Je vais l'éteindre. Voilà. Et donc, le royaume des cieux, c'est ce qui nous attend, ce qui nous accueille, cet endroit où sont déjà tous les autres, tous les saints qui nous ont précédés, quelque part. D'accord.
Merci, ma femme.
De rien.
J'ai une petite question. Vous avez dit que, est-ce que j'ai bien compris, quand vous avez dit que Jésus se situe dans une vision messianique du royaume.
Oui.
Dans une vision assez, est-ce que c'est une vision donc assez humaine?
Oui.
Et on a la compréhension finalement de sa vision du royaume que dans l'entretien avec Pilate. Est-ce qu'il a quand même au cours de sa vie quand même semé des messages qui, où il évoque quand même ce royaume qui est déjà présent, quoi.
Alors, on va revenir un peu à ce qu'on appelle les paraboles du royaume. Je vous rappelle quand même que plusieurs fois dans les synoptiques, surtout la scène après la multiplication des pains, Jésus s'échappe parce qu'il voulait le faire roi. Vous vous rappelez de cette scène? Alors, je vous propose de continuer à écouter Jésus nous parler du royaume dans les paraboles du royaume pour voir un peu de quoi il parle. Justement, dans ces fameuses 50 fois qui parlent du royaume. Alors, on continue. Donc, j'ai pris quelques paraboles. Il y en a beaucoup plus que ça. mais je vais commencer par celle-là, qui m'ont semblé significatives. Le royaume est comparable à un trésor qui était caché, qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau dans sa joie, il met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Donc un trésor qui est tellement important qu'on s'endette pratiquement, qu'on met toute cette énergie, mais c'est un trésor qui donne de la joie. Après, le royaume, c'est un homme qui jette la semence. Et cet homme, c'est bizarre là, il dort, il est debout, il y a la nuit, il y a le jour, mais la semence germe et grandit, il ne sait pas comment. C'est la terre qui produit l'herbe, l'épi, le blé. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette idée de semence et cette idée que cet homme, quelque part, il y est pour rien dans ce royaume, dans cet épi qui grandit et qui va faire du blé. Et alors là, on est dans ce présent de la semence, ce pas encore de l'épi de blé. On est quand même dans l'homme qui a fait quelque chose, donc ça parle à l'Église, tout ça. On est dans, on ne sait pas comment ça se passe. On a cette graine de moutarde. Alors, la graine de moutarde, elle nous parle particulièrement actuellement, parce qu'elle est toute petite. Et pourtant, elle devient grande. Et elle sert à avoir de la moutarde, à ceux qui ont semé la moutarde, mais elle sert bien au-delà de ceux qui veulent de la moutarde, puisque elle sert aux oiseaux du ciel pour qu'ils puissent faire leur nid. C'est-à-dire que ces fruits débordent largement celui qui l'a semé et le pourquoi on a semé cette graine. Donc, on a des données sur ce royaume qui sont un peu bizarres, pas toujours faciles à cerner, comme tout ce qui a trait à Dieu. Et je vais prendre maintenant la parabole du bon grain de l'ivraie, qui est très connue. Alors là, c'est à nouveau, il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain. Alors, qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Est-ce que c'est ce fameux grain qui pousse? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la récolte? On ne sait pas trop. Mais ce qu'on voit, c'est que quand même, ce bon grain, ce royaume, il est fragile. L'ennemi peut venir. L'ennemi peut semer de l'ivraie au milieu du champ. Ce royaume, il n'est pas acquis, il est quand même à la merci de l'ennemi. Et ce maître prend patience. Il prend patience, le blé, il va pouvoir le recueillir, le livrer, il va pouvoir la brûler, mais... Ce n'est pas le rôle des serviteurs du maître de maison de trier le bon grain de l'ivraie. Je pense que pour l'Église, il y a cette conscience que l'ennemi passe par là et cette conscience que tout le temps de l'Église, on est un peu obligé de laisser croître ensemble le blé et l'ivraie. Alors après, je continue dans Luc. Là, on est au chapitre 17 de Luc. Le chapitre 17, c'est assez loin dans l'évangile de Luc. Alors, l'évangile de Luc, contrairement à celui de Marc et Matthieu, a une espèce de partie intermédiaire. Les évangiles de Marc et de Matthieu, vous avez la prédication en Galilée, puis on va à Jérusalem, l'entrée triomphale à Jérusalem et tout de suite la passion. Dans Luc, il y a ce qu'on appelle la section lucanienne, qui est tout un passage entre le moment où il quitte la Galilée et le moment où il arrive à Jérusalem. Il y a tout un chemin qui se fait, il traverse la Samarie, etc. Et c'est l'occasion de plein de récits et de plein de paraboles. Et petit à petit, on se rapproche de Jérusalem et la tension monte. C'est pendant ce voyage entre la Galilée et Jérusalem que vous avez des scènes ou des paraboles qui ne sont que dans Luc, comme le bon samaritain, comme la brebis perdue, comme Zachée, comme... Il y en a d'autres, je n'en ai pas, j'en ai une qui m'échappe. Et là, on est dans un entretien avec... des pharisiens qui sont là. Alors, n'oublions pas, les pharisiens, ils connaissent très, très bien la Bible. Hein. C'est des gens très cultivés en matière des Écritures. Et quand vient le règne de Dieu? Et la réponse, c'est on ne peut pas le voir, il n'est pas observable. On ne peut pas dire, ah tiens, il est là, le voici, le voilà. Mais par contre, il est déjà parmi vous. On est à la fois, Jésus dit, il ne vient pas comme un fait observable. Donc, on ne peut pas vous dire, avant il n'y était pas, aujourd'hui il y est. Mais il est déjà là et il faut le comprendre. Alors, je vais continuer sur ces évangiles pour me dire qu'est-ce qui se passe pour les disciples qui racontent ces évangiles quand ils arrivent après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, je vous rappelle que cette histoire avec cette puissance de Dieu qui se manifeste en Jésus, en Galilée, ça ne se termine pas vraiment très bien. Puisque ça se termine sur la croix, alors et nous qui croyons qu'il allait rétablir la royauté en Israël, disent les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et après cette mort, ils font l'expérience très mystérieuse de la résurrection. N'oublions pas que ce n'est pas le même contact avec Jésus que celui qu'ils ont eu du temps de son corps de chair, de sa vie sur terre. D'ailleurs, leurs yeux sont empêchés de le reconnaître quand ils le voient. C'est un peu plus complexe. Mais ils font cette expérience que Dieu a vaincu la mort et que dans le Christ, Dieu a inauguré définitivement son règne. Le texte que vous voyez, c'est un texte de Jean-Paul II. Redemptoris Missio, c'est une des multiples encycliques de Jean-Paul II. Il me semble me souvenir, je ne l'ai pas sur la feuille, mais il me semble me souvenir que c'est 1990, et qui parle de la mission de l'Église, mais la mission de l'Église, c'est celle du Rédempteur, puisque vous voyez le titre, la mission du Rédempteur. Et là, on est au numéro 16. Donc, la résurrection change totalement ce message de Jésus, qui était déjà un prophète puissant quand il était en Galilée, puisque c'est comme ça qu'il a été vécu. Mais ça lui donne une portée. Les disciples qui étaient en Galilée, ils ne voyaient pas tellement au-delà du royaume d'Israël, dans le meilleur des cas. Alors qu'une fois la résurrection passée, petit à petit, ils ont conscience de cette portée universelle. À Jérusalem, jusqu'aux Galilées et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, ils voient cette articulation entre le royaume qu'ils attendent, qu'ils attendaient, qu'ils croyaient attendre, et la personne de Jésus. Ce royaume, ben, ne ressemble pas du tout au royaume messianique qu'ils s'imaginaient, un royaume politique qui délivrerait le peuple de Dieu du joug romain, ou surtout qui lui permettrait de bien vivre, mais le royaume qui était présent dans la personne même de Jésus et qui s'instaure dans l'homme qui est dans le monde, qui est une espèce de germe. Il y a beaucoup d'images de germes dans ce royaume de semences, la graine de moutarde, le blé, etc. Et que Jésus a mis sur la terre. Et donc, au début, cette église primitive, elle va unir l'annonce du royaume de Dieu en prend des grands mots, kérigme pour dire le noyau de l'annonce, et la proclamation de l'événement Jésus-Christ. Alors, l'événement Jésus-Christ, c'est tout un ensemble, c'est l'incarnation, Dieu s'est fait homme, c'est la prédication de Jésus, bien sûr, la mort et la résurrection de Jésus. On s'arrête un petit peu pour réagir.
Bonsoir. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais peu importe. Comme j'ai en plus manqué le début, donc pardon pour mon retard.
Des choses qui arrivent, on fait ce qu'on peut.
J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais déjà contente d'être là. La question que je me posais, c'est j'ai du mal à faire le lien entre parler du royaume de Dieu et la thématique qui est l'Église. Et forcément, le lien est évident, mais du coup, c'est le royaume des cieux. Et voilà, c'est juste ce petit truc qui me manque là.
Alors, j'espère qu'on va pouvoir petit à petit y arriver, mais la grosse question qui est au cœur de l'Église, effectivement, c'est si ce royaume de Dieu a été inauguré par Jésus, quelle responsabilité a l'Église pour faire grandir, pour faire advenir ce royaume? C'est toute la question de la place de l'Église dans l'avènement du royaume que nous allons travailler aujourd'hui, mais que nous allons retravailler par plein de biais différents également la semaine prochaine et la suite du travail. Okay. Donc, c'est une première réponse.
Ouais, la suite viendra donc. Merci.
Ah, j'espère. Alors, on va continuer avec les épîtres des disciples. Donc, je vous rappelle, ce Nouveau Testament nous raconte la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et dans les évangiles, et dans ce Nouveau Testament, nous avons les Actes des apôtres qui nous racontent l'histoire de la naissance de l'Église, et puis toutes ces lettres des apôtres à des communautés chrétiennes qui s'installent un petit peu partout, et où ces apôtres vont essayer de construire l'Église qui se met en place et de comprendre et de discerner qu'est-ce qui se passe. Vous voyez bien qu'ils n'ont pas grand-chose quand même pour avancer, pour comprendre. Ils ont, Ils n'ont pas de dogme, ils n'ont pas d'écriture, puisque, enfin, ils ont les écritures que nous appelons actuellement l'Ancien Testament, mais ils n'ont pas d'écrit, ils n'ont que du bouche à oreille, ils n'ont pas encore de rites, ils n'ont pas encore de règles de vie. Il faut qu'ils imaginent tout. Et les apôtres, au début, s'imaginaient très nettement que le Christ, Jésus, était ressuscité, que ça n'allait pas durer très longtemps avant qu'il revienne et qu'il emmène tout le monde, ou au moins tous les croyants, avec lui dans le royaume céleste. Bien évidemment, il y a eu un moment où il a fallu qu'il se rende compte qu'on était dans un temps d'attente. Et que ce temps d'attente durait un petit peu. Alors, je vais repartager l'écran pour voir un petit peu les fruits, ce que les apôtres retiennent comme étant déjà reçu, le royaume est déjà là, le royaume est parmi vous, ce qui est déjà de l'ordre du présent et ce qui est encore dans l'attente. Donc, je vous propose quelques versets, comme d'habitude, du Nouveau Testament. Et je commence par la première lettre de Jean. Je lis Jean, j'ai mis un titre, mais voyez de quel grand amour le Père nous a fait don. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Nous ne sommes pas seulement appelés enfants de Dieu, nous le sommes vraiment. Rappelez-vous, la semaine dernière, dans les petits versets de l'Épître aux Galates qu'on a lus, vous êtes devenus fils de Dieu. Vous êtes devenus fils, héritiers. Alors, voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, il n'a pas découvert Dieu. Dans l'Épître de Jean, il y a toujours cette articulation entre ceux qui ont découvert Dieu et ceux qui ne l'ont pas découvert. Mais nous, on a découvert Dieu. Mes bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous tenons. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, il y a ce « déjà là » et ce « pas encore ». Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables. Là, je pense que j'ai une faute de frappe, il faut que je vérifie. Mais on a quelque chose de nouveau parce qu'à ce moment-là, nous le verrons tel qu'il est. Donc, on a un déjà là, quelque chose dont on est sûr et sur lequel on peut s'appuyer. Nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On est finalement encore dans l'attente. Et là, Jean donne tout de suite cette grande qualité. Quiconque fonde sur lui une telle espérance, pas une qualité, c'est une vertu, se rend pur comme lui est pur. Donc, on est dans l'espérance. Les apôtres qui écrivent les lettres sont en train de théoriser, de théologiser de la vie du chrétien qui est une vie dans l'espérance, qui est une vie qui a un pied sur la terre où on a un déjà là, où on tient déjà qu'on est enfant de Dieu et qui a une immense espérance, un pas encore qu'on attend. Et le temps que nous vivons, il l'appelle un kairos. qui en grec est un temps qu'on appelle favorable, c'est-à-dire une période où les choses sont bonnes. Et donc, le Nouveau Testament lit comme un temps favorable, un temps qui nous nourrit, qui est bon pour nous, cette période où nous avons un déjà là, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, nous sommes encore dans l'attente. Alors là, on est dans Saint Jean. On va le voir également maintenant dans Saint Paul. Alors, Saint Paul, la lettre aux Romains. Saint Paul est déjà plutôt théorique, plutôt du genre à écrire, entre guillemets, difficile. Mais dans l'Épître aux Romains, c'est là qu'il est le plus théorique, qu'il est le moins concret. Ces Romains, c'est des gens qu'il ne connaît pas, qu'il se propose d'aller visiter, avec qui il a eu que des relations, sans doute par lettre ou par des messagers qui lui ont parlé des Romains. Mais donc, il n'est pas, comme avec les Corinthiens, au cœur de cette vie concrète, des gens qui se chamaillent, il ne connaît pas les prénoms des gens, alors que vous vous rappelez que chez les Corinthiens, ils vous parlent de Chloé, ils vous parlent de plusieurs personnes, etc. L'Épître aux Romains, on sait que c'est une certaine Phoebé qui va la porter à Rome. Mais il leur parle quand même de façon assez très théorique. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette Épître aux Romains? Il nous parle du présent et de l'attente. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Donc un temps présent difficile, un futur qui est la gloire. Car la création, c'est nous, mais c'est plus que nous, c'est tout un ensemble. Hein. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Cette création, elle est livrée au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée. Dieu nous dit qu'il y a une force du mal. Hein? Cette création garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté, à la gloire des enfants de Dieu. Donc, vous voyez cette situation du présent où la création est livrée au pouvoir du néant, où il y a esclavage, il y a corruption, il y a souffrance, et cette révélation qui nous attend de liberté, de gloire des enfants de Dieu. Ce déjà-là, c'est cette certitude de la liberté et de la gloire, et ce pas encore qui est qu'on est encore dans les souffrances du présent. Et cette image magnifique, la création tout entière, gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Cette période où l'enfant va arriver, mais ce n'est pas un moment si facile que ça. Elle n'est pas la seule, il n'y a pas que la création qui gémit. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, donc on a déjà des certitudes, on a les prémices de l'esprit. Je vous rappelle que les prémices des récoltes dans l'Ancien Testament, ce sont les premières récoltes, mais c'est pas des fruits verts, c'est pas du blé pas mûr. C'est le début des récoltes, mais c'est consommable. C'est quelque chose qu'on peut goûter. Mais on n'en a que le début. Donc, c'est pour ça que nous gémissons en attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. cette ambiguïté du corps qui est à la fois quelque chose de bon, puisque l'Église est corps du Christ, mais qui est aussi celle dont on va être délivré pour rejoindre notre Seigneur. Et là, le grand mot, nous avons été sauvés. C'est fait, on est sur un temps de passé, simple, c'est fait. Mais c'est en espérance. Et alors là, il nous remonte, entre guillemets, le moral, et surtout, il nous dit ce que c'est que l'espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est pas espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Donc, l'Église que Paul discerne, que Paul met en place, c'est une Église de l'attente, d'une attente patiente. Et donc, c'est la situation des chrétiens, d'attendre, mais d'attendre avec cette certitude du fait d'avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu, et attendre avec toute la création, notre espérance humaine. Je continue, non pas avec Paul, avec Paul, toujours, plutôt que l'Épître aux Romains, avec la première aux Thessaloniciens. Je vous rappelle que c'est considéré comme l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament. Et il répond à une question. Les épîtres de Paul sont toujours contextuels. Paul écrit soit parce qu'il y a un problème dans la communauté, soit quand il écrit aux Romains parce qu'il veut les prévenir qu'il veut venir, soit parce qu'il y a une question qui lui a été posée. Et toutes ces questions sont toujours le prétexte à des grands développements théologiques. Et là, la question, c'est, ben voilà, on n'est donc pas tout à fait en l'an 50, les premiers disciples étaient persuadés que, apparemment, c'est ce qu'on comprend, que Jésus allait revenir très vite pour les emmener avec lui près du Père, pour les emmener dans cette demeure qu'il leur avait préparée, suivant l'évangile de Jean. Et donc, ils s'étaient mis dans une attente très active, mais presque déçus que ça n'arrive pas tout de suite. Et en particulier, ils sont inquiets parce que certains membres de leur communauté meurent, puisqu'ils restent mortels. Et donc, Jésus n'est pas revenu pour les emmener, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et donc, c'est cette réponse que fait Paul. Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas tous ceux qui sont morts. Donc, vous voyez un Paul qui se dit « nous » et qui pense qu'il restera sur la terre jusqu'à la venue du Seigneur. Hein? Car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, une attente, une espérance courte, entre guillemets. Mais là, on est au tout début. On est avant 50. Et Paul, qui est sans doute un petit peu plus jeune que n'était Jésus, n'a pas encore 50 ans, donc il se sent encore jeune, il se sent d'attendre la venue du Seigneur. Bon, en fait, cette venue du Seigneur, ben, elle tarde. Et dans la deuxième aux Thessaloniciens, qui est plus tardive, qu'elle soit de Paul ou d'un autre disciple, ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous, ben, on est en train de se dire, non, l'attente, elle va durer. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, n'allez pas trop vite perdre la tête. Ça risque de ne pas être pour demain matin. Tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées, de vive voix ou par lettre. Donc, on est en train de se dire qu'il faut qu'on mette en place des façons de vivre pour tenir dans la durée. Ça va être l'enjeu de l'Église à partir très vite, dès 55-60, on se rend compte qu'il va falloir tenir dans la durée, vivre dans l'attente. Et un témoin qui est extrêmement intéressant, c'est cette deuxième lettre de Pierre. Je vous ai dit, la première aux Thessaloniciens est considérée par les exégètes, les gens dont c'est la spécialité d'apprendre et de scruter les Écritures, elle est considérée comme l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament. Cette deuxième lettre de Pierre est considérée, au contraire, comme l'écrit le plus récent du Nouveau Testament, donc au début du IIe siècle. De toute façon, le Nouveau Testament, il est bouclé assez tôt dans l'histoire de l'Église. Et l'écrivain qui écrit sous le patronage de Pierre, donc qui se présente comme un disciple de Pierre, va dire, vous me posez une question. Ce qui est entre guillemets, c'est la question. Où en est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dans le même état qu'au début de la création. Les pères, ce sont les premiers apôtres qui ont apporté cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle de l'incarnation, de la mort, de la résurrection de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils constatent, ces braves interlocuteurs de l'auteur de la lettre de Pierre? Ils constatent, on est dans l'attente, on nous a fait une promesse, mais ça ne vient pas. On ne sait plus, les choses ne changent pas. Tout demeure dans le même état qu'au début de la création. Comme dit l'Ecclésiaste, les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas encore remplie. Rien de nouveau sous le soleil. Et donc, il y a une réponse de l'apôtre. Il y a une chose, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alors ça, c'est dit dans un psaume également et dans certains passages des Écritures. Nos braves premiers chrétiens, ils n'avaient pas encore de Nouveau Testament, mais ils avaient les Écritures qui les nourrissaient. Donc, un seul jour comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour, vous pouvez attendre. Et c'est pourquoi, mes amis, dans cette attente, faites un effort pour qu'il vous trouve dans la paix nette et irréprochable. Dans la paix nette, irréprochable, des efforts. La vie chrétienne, ça n'est pas d'être vautré, c'est d'être dans les efforts, même si c'est pas toujours évident. Tenez-vous sur vos gardes. La basilique qu'on a vue au tout début, c'est Notre-Dame de la Garde qui protège les Marseillais. Tenez-vous sur vos gardes. Ne vous laissez pas entraîner par les impies. ne vous laissez pas arracher à votre assurance. Attention, ce n'est pas si facile que ça de vivre cette condition d'attente. Mais croissez, grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce, c'est de l'accueil, de la connaissance, c'est également c'est quelque chose qui s'acquiert autant avec son intelligence qu'avec son cœur, la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, dès maintenant jusqu'au jour de l'éternité. Cette articulation entre le maintenant et le lointain de l'éternité. Et amen, puisque c'est la fin de l'épître. Donc, on a à peu près fini avec les épîtres. Donc, je vous laisse un peu réagir.
J'ai deux questions.
Oui.
Alors, la première là, qui me vient, c'est le mot « effort » et le mot « attente » en grec, enfin même en hébreu, la traduction originale, vous le connaissez, parce que c'est des mots qui, pour moi, sont très… Enfin, qui nourrit justement ce côté fort, il faut souffrir, il faut mériter le royaume. Et c'est des mots qui, pour moi, sont très violents, où on appelle à la paix et en même temps, on nous invite à un effort. Et du coup, je voulais voir la racine du mot. Est-ce que c'est moi qui le surinterprète en français ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus adouci
Alors, bon, là, je n'ai pas mon Nouveau Testament grec sous la main. Et de toute façon, je ne parle pas assez bien grec pour vous répondre sur le mot. Le mot grec. En revanche, quand je vais parler d'effort, moi, l'image qui me viendrait plutôt, c'est quand vous marchez en montagne, cet effort que vous faites, c'est pas un effort misérabiliste. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Je le vois... Moi, ça m'arrive de faire de la montagne, je dirais même que c'est, entre guillemets, un de mes lieux de vacances préférés, de faire de la randonnée en montagne, et c'est un effort, c'est fatigant, mais ce n'est pas une punition. C'est plus mettre de la consistance dans cette vie. C'est ne pas, c'est un peu le contraire d'être vautré. Je me rappelle que quand j'étais tout enfant et quand justement on était en vacances à la montagne, qu'on nous réveillait le matin et nous disait « Allez les enfants, on n'est pas là pour s'amuser ». Alors qu'on avait tous beaucoup de plaisir à ces randonnées qui étaient adaptées à notre âge, hein, mais qui nous demandaient de l'effort.
Merci beaucoup, ça m'a réconcilié là, avec le mot. C'est vrai que je voyais plutôt l'effort dans le sens porter sa croix, et du coup, qui est un terme aussi qui me chagrine beaucoup. Et du coup, l'autre question que j'ai, c'est dans la notion d'attente, justement. Moi, j'ai toujours cette tendance, dans mon chemin et comment je grandis au jour le jour, cette posture d'attente, c'est comme si je ne pouvais pas être complet ou être dans une joie totale à cet instant puisque j'attends encore quelque chose. Et du coup, ça, c'est ma vision très simpliste, très binaire. Et donc, j'aurais bien aimé votre regard là-dessus, dans cette attente chrétienne. C'est quand même comme de dire à un peuple tout entier de croyants, c'est déjà là, mais vous ne l'avez pas quand même. Donc, faites bien les efforts qu'il faut. Et du coup, c'est comment justement adoucir et réconcilier ce chemin, c'est qu'on est dans l'attente, mais en même temps, on a déjà accès au royaume de Dieu à cet instant, on l'a déjà dans notre cœur, si on se dépose là, et qu'on se met en profonde prière, en lien avec Dieu, dans la grâce, on est dans le royaume de notre vivant. On peut s'en égarer très vite, par contre.
Je ne vais pas répondre à votre question, parce que vous êtes en train de me décrire l'existence chrétienne.
Mais elle me pose problème encore, celle-là, à cet endroit-là.
Si c'était facile d'être chrétien, ça se saurait. Enfin, je dis ça en plaisantant, mais la proposition de Jésus est une proposition dont je dirais qu'elle est consistante. Et ce qui est consistant n'est jamais totalement aisé et facile. Ça, c'est ma réponse un peu personnelle, mais et sur laquelle je n'ai peut-être pas autorité pour vous donner, pour voilà, l'affirmer, mais cette notion de consistance qui n'est pas une pente facile, quoi.
Voilà, je peux bien voir.
Ça soulève la question de comment vivre à la fois dans cette verticalité, dans cette transcendance, dans cette conscience, et à la fois sur un plan plus horizontal, vraiment dans comment je suis au monde pas après pas. Et là, moi, c'est une question avec le temps, justement, dont vous avez parlé, où si je... il y a comme une invitation dans la foi chrétienne à vivre comme si on était dans le face-à-face avec Dieu ce soir. Et en même temps, de construire quelque chose qui nous permet d'être au plus pur au moment de ce face-à-face et qui s'allonge dans la longévité. Et c'est vrai que si moi, je devais mourir ce soir, j'agirais pas pareil aujourd'hui si j'avais pas demain. Sauf que dans l'invitation, il y a comme un truc qui... Et du coup, cette question d'attente, et je vois bien dans les apôtres, là, ils croient que ça va être maintenant, alors ils arrêtent tout. Et ils se mettent là et... Viens, Seigneur. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on devrait avoir cette posture de viens, Seigneur, tout en étant agissant. Et pour moi, c'est très compliqué, comme je pense pour beaucoup d'ailleurs. Mais...
Eh bien, vous êtes vraiment au cœur du mystère chrétien, du mystère de l'Église. Et on va continuer, puisque vous avez parfaitement introduit la suite.
Ah bah avec plaisir.
Je voudrais poser une question quand même.
Oui, vous avez le droit, tout à fait.
Ou faire part d'un... Je suis un peu intriguée. Vous avez dit, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Mmh. Et je me dis, mais l'Église, elle est faite de qui? Quelles sont les personnes? Il faut être baptisé pour faire partie de l'Église? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, vous n'avez évoqué que des... personnes qui lisent l'Évangile, qui connaissent les lettres de Paul et les autres. Bon, c'est une question, mais je trouve que c'est en apparence restrictif.
Cette question...
C'est peut-être vu plus tard, j'en sais rien.
Voilà, cette question n'était pas posée par les premiers chrétiens quand ils ont été ultra minoritaires. Il ne se posait pas la question de savoir. Ils savaient que eux avaient cette espérance, mais ils n'étaient pas en train de se dire que ceux qui n'étaient pas baptisés étaient condamnés. Ça, c'est quelque chose qui est venu bien après, de se dire qu'il fallait le baptême pour être enfant de Dieu, etc. Le Concile Vatican II, qui est entre guillemets le magistère que dont nous disposons actuellement, se refuse, garde la tradition de l'Église depuis 15 siècles, qui est le baptême nous fait enfants de Dieu. Quand on baptise des enfants d'âge scolaire, on chante « Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus ». Pas seulement d'ailleurs pour des baptêmes d'enfants en âge scolaire, mais c'est particulièrement efficace. C'est un cantique qui marche particulièrement bien à ce moment-là. Le concile ne limite pas. C'est Dieu qui décide qui sont ses enfants. Et c'est Dieu qui a les bras ouverts aux dimensions du monde. Et ce que c'est le Concile, c'est qu'il sait que les baptisés sont membres de l'Église. Mais même l'Église, il ne veut pas la limiter aux baptisés. parce que on ne sait pas la relation, le cœur de Dieu avec. En revanche, ce qu'il y a, c'est que ceux qui ont eu accès au baptême et au sacrement, à la parole, ont une espèce de. Ont touché quelque chose qui est de l'ordre du signe et du moyen pour accéder à Dieu. C'est ce qu'on. Signe et moyen.
Merci.
Voilà. Ça reste compliqué de toute façon. Si en théologie, on a une réponse trop définitive, c'est que quelque part, on enferme l'esprit. J'essaye d'éviter, mais c'est toujours une tentation, surtout de quelqu'un qui a été prof de physique avant, où il y a du vrai, du faux de façon beaucoup plus simple.
Madame, est-ce que je peux compléter un peu? Je crois qu'aujourd'hui, dans l'église, comment on appelle ça? Oui, l'église d'aujourd'hui, c'est pas que ceux qui sont soit baptisés, il y a aussi ceux qui invoquent le nom de Dieu en tout lieu. Ça aussi, ça fait partie vraiment de l'église. Et ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est leur Seigneur. Le fait que de reconnaître que vraiment Jésus, c'est un sauveur, c'est le Seigneur, tu es déjà dans la famille de Dieu, tu es dans l'Église, même si tu n'as pas le baptême normalement.
C'est tout à fait vrai, c'est d'ailleurs ce que dit saint Paul au début de la lettre aux Corinthiens.
Merci beaucoup.
Vous avez tout à fait raison.
S'il vous plaît, à propos de la notion d'effort, j'ai trouvé le mot en question et il est traduit par « en hâte, avec empressement » ou bien « avec sérieux, la gravité, la diligence, faire diligence, s'intéresser le plus sérieusement ». C'est les définitions de spoud qui voudraient dire qui serait le mot utilisé pour l'effort. Voilà, c'est ce que j'ai vu.
Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Vous voyez toute cette sémantique. Merci.
Merci.
Quelqu'un qui est capable d'aller voir le grec, c'est bonne ressource pour notre cours. Surtout que je suis déjà pas très bonne en grec, donc je mettrai du temps et pas pendant que je vous parle.
Mais je connais pas le grec, mais je suis allée voir simplement sur la Bible en français et là il y a les traductions et et les étymologies des mots, c'est tout.
Ouais. Alors, on continue un tout petit peu avec nos premiers chrétiens qui se posent des questions sur comment on va vivre en chrétien. Et donc, des questions importantes qui sont la question du monde. C'est-à-dire, je vous rappelle que les Juifs, qui étaient assez nombreux dans l'Empire romain, parce qu'ils avaient fait beaucoup de convertis. C'est un monde, l'Empire romain, qui avait une grande soif spirituelle, une grande soif de trouver du sens, et du coup la religion juive avait du sens. Et les Juifs, ils avaient un régime alimentaire, des façons de vivre, la loi, qui les amenait à vivre en groupe entre eux. Et la question finalement que se posent les premiers chrétiens, c'est comment on va vivre par rapport au monde. Et donc on va s'interroger avec l'Écriture sur est-ce que on doit vivre au cœur du monde, comme disait tout à l'heure, j'arrive pas à me rappeler de son nom. Où est-ce que je suis dans l'attente que je meure demain et je ne fais plus rien? Alors, qu'est-ce que nous dit l'écriture ? Quand l'écriture nous parle du monde, c'est toujours très ambigu, parce que le monde, à la fois, il est aimé de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Donc, on est dans un monde qui est vu par Dieu avec amour, vu par Dieu. Et donc, si nous sommes disciples de Jésus, que nous sommes dans cet élan de Dieu, nous devrions avoir cet amour du monde. Mais d'un autre côté, le monde est marqué par le mal, le péché, l'incapacité d'accéder à Dieu. Et du coup, le Nouveau Testament, des fois, nous dit « Attention, danger, mettez-vous en retrait. » L'épître de Jacques. « Ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde est hostilité contre Dieu ?» Il y va fort quand même. « Celui qui veut être ami du monde se fait donc ennemi de Dieu. » La première lettre de Jean, qu'on a déjà vue tout à l'heure, qui nous dit qu'on est enfant de Dieu. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, puisque tout ce qui est dans le monde, allez, tout, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la confiance orgueilleuse dans les biens, ne provient pas du Père, mais provient du monde. » Donc, il y a cette espèce de défiance qu'on voit apparaître dans ces écrits des premiers chrétiens qui font que les premiers chrétiens, ils vont avoir à faire un choix. Est-ce que on essaye d'être un petit groupe de purs, de gens qui suivent Jésus et qui vivons dans un certain absolu? Ou est-ce que nous décidons une autre façon de vivre? Les actes des apôtres sont témoins un petit peu de cette question. Et les actes des apôtres, c'est ce qu'on appelle de la théologie narrative. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de faire de la théorie des mots, des concepts, ils racontent une histoire. Et en racontant une histoire, ils racontent certaines choses. Et vous savez, dans les actes des apôtres, ce qu'on appelle des sommaires. Alors, les sommaires, c'est les disciples vivaient, ils étaient tous unis, partageaient leurs repas, ils étaient assidus à la prière, et il n'y avait pas de pauvres avec eux, parmi eux, parce que tous ceux qui avaient des biens les vendaient et mettaient l'argent au pied des apôtres pour que tout le monde soit riche. Ça, c'est ce qu'on a, les sommaires, et on est quelque part dans ce modèle d'une église, enfin d'une église, d'une commune, d'un groupe de chrétiens qui vivent entre eux une reproduction d'un idéal divin. Tout de suite après ce sommaire, vous avez l'histoire d'Ananie et Saphire. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire, c'est ce couple qui avait un champ, qui le vend, mais qui n'apporte pas tout l'argent aux apôtres, qui en met un peu de côté. Hein, donc, chassé le naturel, il revient au galop, on est là, le péché est finalement la convoitise, tout ce que vous voulez, au cœur de l'Église. Et d'ailleurs, ça se passe très mal. Ils sont punis, ils meurent subitement tous les deux. C'est affreux. Mais donc, c'est pas un hasard que c'est après cette vision idyllique de l'Église qu'on voit cet épisode. Et juste après cet épisode, pour la première fois, on emploie pour désigner le groupe chrétien le terme « église ». Donc, quelque part, on a pris acte du fait que la communauté parfaite, c'est l'échec. Quand on va apprendre le mot église, quand on va commencer à utiliser le mot église dans cette histoire. Vous voyez ? On a fait un pas. Donc, on a décrit une communauté parfaite. Ils sont tous assidus à la prière, ils se vivent en frères, etc. On a un gros péché d'Ananie et Saphir. Finalement, au cœur de cette communauté parfaite, même si Dieu les fait mourir de façon atroce, ça ne marche pas, quoi. Ils ont vendu leur champ et ils ont gagné une partie de la somme pour eux. Ça ne marche pas. Et le groupe des chrétiens prend un nouveau nom, il s'appelle Église. On a pris acte qu'on n'était pas parfait. Et on reçoit un nouveau nom dans les Actes des Apôtres. Ce qu'on appelle de la théologie narrative. Ce n'est pas écrit dans les Actes, ça. C'est une façon de lire l'histoire et de comprendre des choses. Alors, je continue avec un écrit du IIe siècle. Cette épître, donc, le brave Doniette était préfet d'Alexandrie entre 197 et 203. Donc, cette lettre qu'il a reçue, on ignore qui l'a écrite, mais on sait qui l'a reçue, est assez bien datée. Là, on est encore relativement au début du christianisme, on n'est pas encore dans de la persécution systématique. Il y a eu quelques épisodes de persécution, mais ils étaient sporadiques et localisés. Les chrétiens ne sont pas encore très nombreux, même si le nombre de chrétiens augmente, ils ne sont pas encore considérés comme un danger pour la stabilité de l'Empire, sauf à certains lieux particuliers ou dans certaines circonstances, ils servent de bouc émissaire, comme par exemple au moment de l'incendie de Rome, qui est plutôt ça. Et donc, ce brave Doniette, qui est un préfet consciencieux, cherche à savoir ce qu'il faut qu'il pense des chrétiens qui habitent dans la ville qu'il a en charge. Et n'oublions pas, le problème d'un préfet, c'est l'ordre public. C'est que ça se passe bien dans sa ville. Ce n'est pas de persécuter les gens, puisque ce n'est pas s'il est un bon préfet. Et donc, il se renseigne et un chrétien dont on ignore tout lui explique ce que sont les chrétiens à lui qui n'a pas de préoccupation théologique, qui a une préoccupation d'ordre public. Et qu'est-ce qu'il va nous dire qui va être important, qui nous apprend les choix qu'ont fait les chrétiens aux alentours de l'an 200. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Donc, ils parlent les langues, la langue de là où ils habitent, ils ont les coutumes de là où ils habitent. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de chacun. Donc, ils n'ont pas de lieu spécifique à eux. Ils sont dispersés. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence. Mais attention, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Et là, il y a un développement sur la question de patrie, du pays. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Alors, les gens, on est dans des cités grecques, où, au-delà de la question de la citoyenneté romaine, qui est beaucoup plus large, il y a des citoyennetés locales dans chaque cité. Donc, être dans sa propre patrie, c'est avoir la citoyenneté de la ville où on est. Être étranger domicilié, c'est, je dirais avec une image actuelle, avoir une carte de séjour. On est en règle, on peut travailler, on n'est pas persécuté, on n'est pas poursuivi, mais on n'est pas citoyen. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, les chrétiens se considèrent comme des étrangers domiciliés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à leur patrie, à la terre. Le terme grec pour étranger domicilié, c'est paroikos, qui a donné notre mot paroissien. L'auteur de la lettre à Dioniette continue. Toute terre étrangère leur est une patrie, toute patrie leur est une terre étrangère. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Cet ancrage dans la terre et cette citoyenneté dans le ciel qui caractérise les chrétiens. Et donc, ils obéissent aux lois établies. C'est des bons citoyens. Mais leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Et après, il va continuer, cet auteur, avec une image qui est une image qui parle à Alexandrie au IIe siècle, parce qu'on est en pleine période néoplatonicienne. Et les gens cultivés, ils ont en permanence cette image d'âme et de corps. Et donc, en un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est enfermée dans le corps, mais c'est elle qui maintient le corps. Les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, mais c'est eux qui maintiennent le monde. Vous avez là une image de la perception de l'auteur de l'Épître à Dioniète du rôle des chrétiens dans le monde. Ils maintiennent le monde au cœur du monde. Et le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Donc, partagez. Les chrétiens, à ce moment-là, on est donc en 200. Le troisième siècle qui s'ouvre va être le siècle des grandes persécutions. Et à partir de 312, édit de Constantin, c'est la fin de la persécution. Et on rentre dans ce que les historiens de l'Église appellent la période constantinienne, c'est-à-dire la période où l'Église va rêver de construire le royaume sur la terre. On va revenir sur cette période la semaine prochaine, puisqu'on fera de l'histoire. Mais cette période constantinienne, nous sommes en train d'en voir la fin. L'Église, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour étendre le règne de Dieu sur la terre. Elle a envoyé des missionnaires partout. Elle a passé beaucoup d'énergie. Elle a vraiment pris ce travail au sérieux et il faut se rendre à l'évidence, même s'il y a plus de 2 milliards de chrétiens, le monde entier n'est pas chrétien et on n'y arrivera pas. Et donc, elle se pose la question de quel est son rôle aujourd'hui dans le monde contemporain et quelle est sa position par rapport au royaume. Et c'est une question qu'on va poser énormément à partir du XXe siècle dans la théologie et dans la pratique de l'Église de façon beaucoup plus récente. C'est extrêmement prégnant. Et à Vatican II, on a essayé, donc le Concile Vatican II, 1962-1965, on met à jour l'Église. C'est ce que demande Jean XXIII convoque un concile pour mettre à jour l'Église. Les conciles précédents, ils étaient plutôt pour répondre et redire la vérité face à un monde qui disait des choses fausses. Là, Jean XXIII dit « je ne veux pas d'anathème », c'est-à-dire « je ne veux pas qu'on dise que certaines propositions sont condamnées et que les gens qui croient certaines choses sont condamnés ». Au Concile de Trente, au Concile de Constance, dans les conciles du Moyen-Âge, on disait « quiconque dira ça, qu'il soit anathème », c'est-à-dire qu'il soit condamné, mis hors de l'Église, mis hors du salut, etc. Jean XXIII dira « je ne veux pas d'anathème, je veux qu'on mette à jour l'Église ». Et donc, on va essayer de définir la place de l'Église et on va avoir un, entre autres, une constitution, Lumen Gentium, qui va parler de l'Église. Alors, je n'ai pas le temps de commenter complètement ce plan, mais on commence par le mystère, puis on arrive à ce peuple de Dieu qu'on va se refuser à borner de façon trop précise pour arriver ensuite aux structures. Et on s'appuie beaucoup sur l'épiscopat pour la structure, ce qui est une façon de ne pas trop faire tout descendre du pape, puisque des évêques, il y en a dans tous les diocèses, sur toute la terre. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. On va parler après des laïcs. On va dire et affirmer que la sainteté est la vocation de tous, et pas seulement des clercs et des religieux. Et on va parler des religieux. Et ce numéro, ce chapitre 7, 1, 2, 3, 4, 6, c'est le caractère eschatologique de l'Église. C'est en pèlerinage sur la terre. C'est-à-dire, on va parler de ce déjà-là, pas encore. Et on va décrire l'Église comme en dans cette caractéristique du déjà là, pas encore, qui est sa condition terrestre. Et je vous mets le début du numéro 48. Le terme eschatologique désigne les choses de la fin. C'est un terme récent dans la théologie, qui date du 17e ou 18e. Quand je dis récent, ce n'est pas un terme du premier siècle. Et l'année dernière, vous avez fait de l'eschatologie en anthropologie, mais au début, on se préoccupe d'eschatologie individuelle, c'est-à-dire comment chacun de nous sera sauvé, donc toutes les questions de l'enfer, du paradis, du purgatoire, etc., du jugement dernier, c'est de l'eschatologie, mais un petit peu individuelle. Là, le Concile affirme que l'Église est eschatologique et il l'explique dans ce numéro 48. L'Église, à laquelle dans le Christ Jésus nous sommes tous appelés et par laquelle, par la grâce de Dieu, nous acquérons la sainteté, c'est le chapitre d'avant, la sainteté, n'aura que dans la gloire céleste sa consommation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas achevée, elle est en transition. Lorsque viendra le temps où sont renouvelées toutes choses, ce jeu du présent, du futur, et qu'avec le genre humain, donc l'Église n'est pas le genre humain. On affirme en disant que quand l'Église sera renouvelée avec le genre humain, ben, c'est qu'il y a des hommes qui ne sont pas dans l'Église. Et qu'avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Donc, l'Église n'est pas à la dimension de l'univers et du genre humain. Elle est là, avec une vocation sur la terre, mais sa vocation n'est pas de de rassembler en elle tout le genre humain, puisque tout le genre humain ne sera rassemblé que dans la gloire céleste. C'est compliqué un peu à comprendre, mais c'est une révolution culturelle pour l'Église, une réelle conversion. Non, on n'est pas habitué, appelé à être le genre humain. Et donc, une image qu'on va prendre, c'est l'Église en pèlerinage sur la terre. L'Église en pèlerinage sur la terre. Et je vous ai fait un petit schéma de ce pèlerinage qui nous permet d'un peu comprendre, voilà, le temps, la flèche du temps sur un axe. Et tout ce temps de l'attente, c'est l'avant Jésus, l'événement Jésus, l'incarnation, la mort, la résurrection. Et il ne s'est rien passé. Si, on est dans ce déjà-là, pas encore, qui est le temps de l'Église en attendant le retour du Christ pour une vie dans le royaume. Et vous voyez ce temps de pèlerinage qui peut être agréable sous le soleil. On marche. Bon, d'accord, le chemin est un petit peu caillouteux, mais on marche au soleil en discutant. Puis il y a d'autres moments où ben, on voit qu'il ne fait pas si beau que ça. On a des imperméables, le chemin monte. Et puis il y en a qu'il faut aider à marcher hein, quand même, parce que le chemin est dur et tout le monde n'arrive pas à marcher aussi bien. C'est cette image de l'Église en pèlerinage sur la terre. C'est une image qui parle très fort au catholicisme romain, à l'Église romaine, alors que le monde oriental, quand il va parler de pèlerinage, va aussi avoir très fort cette image du lieu saint. C'est pour ça que je vous ai mis sur cette photo l'Église en marche, une photo prise sur les chemins de Saint-Jacques. Et puis une photo de Fatima, c'est cette vision du sanctuaire. Je t'ai vu au sanctuaire, l'amour de ta maison, Seigneur, cette expérience au sanctuaire de la plénitude. Et c'est quelque chose auquel les orthodoxes sont très attachés. Le sanctuaire, l'Église, avec cette iconostase, c'est une expérience de la plénitude en Dieu. Alors, ne me faites pas dire le contraire de ce que je dis. Les orthodoxes mettent le marche comme marche vers Dieu. Et vous avez un très grand classique de la littérature mystique orthodoxe qui est le récit du pèlerin russe. Ce pèlerin, il ne fait que marcher. Vous avez dans l'Église occidentale, Saint Benoît Labre, qui est un saint excessif du début du XVIe siècle, qui marche, de sanctuaire en sanctuaire. Il ne va pas à Lourdes au XVIe siècle, Lourdes n'existe pas encore. Il va à Rome, il va avec Compostelle, il marche. Il ne fait qu'être pèlerin. Et il ne prend pas le temps de vivre cette grâce du sanctuaire à laquelle donc nos frères orthodoxes sont très attachés, mais qui est le but, cette vie pendant quelques jours à Compostelle du pèlerin moyenâgeux. Donc, une image de l'Église en marche qui attend le royaume au bout du temps. Vous voyez ? Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette image du royaume qui est déjà là, qui nous entoure, qui est présent, que le sanctuaire symbolise? C'est pour ça que je voulais vous montrer une autre image qui est là. Qu'est-ce que c'est la représentation sur la petite miniature? Est-ce que quelqu'un peut me répondre?
Une échelle.
C'est l'échelle. Et quelle échelle? C'est l'échelle de Jacob. Vous vous rappelez cet épisode de la Genèse, du songe de Jacob? Jacob vient de fuir son père parce qu'il a, il n'est pas très fier de lui, hein, avec cette histoire de plat de lentilles. Il a préempté le droit d'aînesse. Et il fuit, et il ne sait pas où il va aller, il ne sait pas ce que va devenir sa vie. Et ben, comme c'est la nuit, il prend une pierre, il dort, et il a ce songe du ciel ouvert et des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Et après, il va construire sa vie, il va épouser successivement Léa, Rachel, il va devenir riche, etc. Et il va avoir ses 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. Et quand Jésus rencontre Nathanaël à la fin du premier chapitre de Saint Jean, il lui dit « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Donc, il fait une allusion à ce ciel ouvert en parlant de lui, puisque c'est lorsque il rencontre Nathanaël et que Philippe lui a dit que Jésus est le Messie. Donc, il parle de lui en disant « Vous verrez le ciel ouvert ». Et c'est pour ça que je vous propose une autre image du royaume, qui est de le mettre, nous sommes là dans le temps, à cheminer dans le temps. Et le royaume, il est déjà là, mais il y a comme une frontière qui nous empêche de le voir. Mais Dieu, de temps en temps, ouvre le ciel et met une échelle. Vous voyez ce songe de Jacob. Et donc, nous, Jésus, c'est la plus belle échelle, le plus beau passage entre Dieu et la terre. J'aurais dû mettre des flèches que dans un seul sens, pour que on voit que c'est Dieu qui descend. Et donc, ce ciel, ce royaume, il est présent toujours. Et quel est le rôle de l'Église? C'est d'être là, présente, pour que quand le ciel s'ouvre, quand Dieu frappe à la porte, eh bien, on ne tienne pas la porte fermée. Dans l'Apocalypse, il y a cette image. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui et j'entrerai chez lui et nous prendrons ensemble notre repas, dit l'Apocalypse. Donc, en quelque sorte, là, j'ai une mission pour les chrétiens qui est d'intégrer le royaume dans le présent, de faire en sorte que ce royaume qui veut se manifester dans le présent, eh bien, arrive à s'exprimer. Et ce n'est pas évident parce que ce royaume, ben, il est tout petit, et l'Église doit être témoin de ce royaume, être dans le royaume comme signe du royaume. Je reviens au concile Vatican II avec Lumen Gentium, au début dans le mystère de l'Église. Alors, je suis au numéro 5. Le numéro 1, c'est l'introduction. Le 2, c'est le Père. 3, c'est le Fils. 4, c'est l'Esprit. Et au numéro 5, on arrive au royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu. Donc, on est Jésus, le commencement de l'Église, le règne de Dieu. Un peu plus loin, ce royaume, il brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. Et ben, il se passe quelque chose. Jésus souffre pour les hommes, la mort, la croix. Mais il répand sur ses disciples l'Esprit. Et l'Église arrive, pourvue des dons de son fondateur. Et elle reçoit une mission qui est celle d'annoncer le royaume du Christ, de l'instaurer, c'est plutôt de l'inaugurer, d'en être un germe, un commencement, un signe, peut-être un moyen. Et l'Église, elle aspire à l'achèvement, mais c'est Dieu qui créera cet achèvement. Ce n'est pas à la force du poignet que l'Église achèvera le royaume. Donc, l'Église est dans le monde pour manifester le royaume, pour être signe du royaume. Mais le royaume, c'est le royaume de Dieu, et Dieu est infiniment libre et il ne s'enferme pas dans l'Église. Donc, l'Église n'est pas le seul Dieu, le seul endroit où Dieu peut se manifester. L'Église n'est pas la cause du salut. C'est Dieu le salut, ce n'est pas l'Église. Mais l'Église est voulue par Dieu. C'est un lieu où le royaume de Dieu s'inscrit, se vit, se dévoile par la parole, par l'amour manifesté, par l'évangile, par l'espérance, par la vie en Église et pour les pauvres. C'est une vie de foi, d'espérance, de charité qui essaie d'être signe du royaume. Et je vais terminer quand même avec l'Évangile et notre épître à Dioniette. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme prend et enfouit dans 3 mesures de farine, si bien que toute la masse lève. Une image de la vie quotidienne à la campagne. L'âme est enfermée dans le corps, mais c'est elle qui maintient le corps. Les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, mais c'est eux qui maintiennent le monde. L'épître à Dioniette, des intellectuels au IIe siècle, avec les outils platoniciens. Excusez-moi, là-dessus, que je vais terminer pour aujourd'hui. Il nous reste 4 petites minutes pour discuter.
C'est difficile, je n'ai pas de questions, c'est juste un constat. Il y a tellement de notions qui sont et de définitions qui s'entremêlent. C'est très perturbant, en fait. C'est à la fois on est et on n'est pas, on y est et on y sera. Et on est acteur, mais en fait, on n'y peut rien. Très bien, quoi. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vais réussir à bien dormir ce soir, mais ça interroge beaucoup. Voilà.
Je suis un peu comme ça. J'ai trouvé que le début était assez embrouillé pour moi. Là, la fin, là, j'ai compris le sens du cours, seulement à la fin.
Ça pourrait être plus positif. J'avais été très, j'avais lu, j'étais tombé sur la lettre à Diognette. C'est un petit bouquin qui est magnifique. Effectivement, qui est assez étonnant par la modernité du texte. En fait. Ça, puis, quand on le relit aujourd'hui, il est pleinement d'actualité.
Il est pleinement d'actualité. C'est pour ça qu'il est très utilisé actuellement par la théologie.
Oui, du deuxième siècle, c'est ça qui est étonnant.
Et deuxième siècle. C'est ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire finalement un héritage reçu de nos prédécesseurs.
Est-ce qu'on va recevoir les textes qui étaient en bandeau sur le côté? Parce que la semaine dernière, vous aviez dit qu'on aurait des textes... Du cours, on n'a pas eu. Et cette fois-ci,
les textes, quand vous allez sur le site du CIF, oui. Il y a les textes ce qui est en bandeau, ce que vous avez vu en bandeau, c'est sur le site sous forme d'un poli.
Oui.
Que vous pouvez cliquer. Donc, ce qui était en bandeau, vous le verrez dans le poli. C'est sous forme poli. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je tape un poli et après, je fais mes diapositives à partir de ce poli. Vous aurez l'épître à Diognette est en intégrale et je vous l'avais mise dans la lettre que vous avez reçue.
Si, l'épître à Diognette, on l'a.
Elle est... Et je vous ai même mis le lien pour la trouver. En fait, je crois que je l'ai mise en intégrale.
Oui, donc, on l'a.
Voilà. Et les textes qui étaient dans le bandeau, vous avez, par exemple, je n'ai pas eu le temps de lire tout ce que je voulais lire de Vatican II, mais tout ça, c'est, entre guillemets, dans le poli, qui sera sur le site... demain ou après-demain, c'est-à-dire que je l'enverrai à Hélène demain matin, une fois que j'aurai fait les petites corrections liées un peu à vos questions. Voilà. Et à celles de vos camarades de cet après-midi. Et en principe, je n'ai pas vérifié parce que je n'ai pas besoin, ce poli est mis sur le site par Hélène. Et dedans, il y a les textes que j'utilise, et souvent un peu plus longs, parce que vous voyez, pour que ça rentre dans la diapo, qu'on ne passe pas des heures, je les coupe un peu.
Mais je peux confirmer, parce que j'ai manqué le cours de la semaine dernière, et j'ai tout suivi sur le site. Bon, le cours enregistré, plus le polycopié.
D'accord, faites en mieux. C'est tout, là, oui. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup,
madame.
Merci.
Merci. Merci.
Alors, la semaine prochaine, on fait un peu d'histoire.
Ah, d'accord.
Voilà.
Merci.
Merci. Bonne nuit semaine. À tout le monde et merci. Bonne merci. Semaine à tous.
Bonne semaine.
Bonne semaine à vous et bonne nuit.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir.